Tout en étant acquis à la cause des races locales, je suis quand même un petit peu plus nuancé. C'est le rôle des enseignants aussi de dire qu'il faut quelquefois raison garder. Je ne dis pas que vous n'avez pas gardé raison, au contraire, chapeau. Hein, ça, la question n'est pas là. Bien, ben, j'ai évoqué quelques petites choses. La première, bon, on revient de loin, hein, parce que moi je suis arrivé à Nantes en 79. C'était la belle époque d'un seul système agricole partout. Si l'on parle vache laitière, on se réfère à ce moment-là à Holstein. C'est le système Regra Maïs Holstein. En dehors de ça, il n'y avait pas de salut. Et tout le monde, partout, devait se lancer là-dedans. On m'avait expliqué l'ambiance entre les éleveurs de Holstein et les éleveurs de Normande à l'époque. Hein. La Normande qui a été notre grande race. Alors, la vache à potentiel équilibré, VPE, avait été transformée en VPC, vache pour les cons. Les éleveurs de Normande avaient en permanence la mitraillette à l'égard des personnes. Bon, et je me souviens, cette salle tient une place. J'ai un souvenir particulier qui est très intéressant. Le lycée agricole a ouvert en 87, ça nous a été rappelé tout à l'heure. L'une des premières journées qui s'y est tenue était consacrée à la production laitière. Et je me souviens que le technicien lait de l'EDE, bon malheureusement son nom n'est pas revenu, avait fait une conférence qu'il a commencé de la manière suivante. Il existe différents moyens de gagner sa vie en faisant du lait. Si je n'avais pas été assis, je serais tombé à la renverse. C'était la première fois que j'entendais un message qui concrétisait déjà un début de bascule dans une autre direction. Bon, alors depuis, il y a beaucoup de races qui ont connu bien des problèmes. Très peu ont disparu. Celles qui ont disparu, qui ont été évoquées par M. Niveau, ont disparu il y a vraiment très, très, très longtemps. Alors là, un premier souvenir. L'autre souvenir, c'est donc effectivement la Société d'ethnozootechnie. Je tiens quelques fiches de présentation à votre disposition, là, pour ceux que ça pourrait intéresser, et sa journée de 1974 sur le thème des races en péril. On a été la première structure en France à organiser quelque chose sur ce thème. J'ai eu l'occasion de relire, il n'y a pas très longtemps, ce qu'avait écrit M. Laurence, le fondateur, sur comment peut-on assurer un avenir à ces races. Eh bien, il était prévu de faire appel au lycée agricole, ce qui était totalement prématuré à l'époque. Aujourd'hui, les lycées agricoles sont ouverts, mais à l'époque, il n'y était pas du tout. Donc, c'était du rêve, hein, en 1974. Il était prévu également de faire appel aux parcs naturels régionaux, qui ne se sont pas beaucoup investis par la suite, mais il y a quand même des concrétisations. Il était prévu de faire appel aux municipalités, et c'est là que ça nous intéresse. L'expression éco-pâturage n'était pas utilisée à l'époque, mais il y avait déjà cette idée de faire en sorte qu'en dehors du secteur agricole, quand on avait besoin d'animaux pour entretenir des zones, eh bien, on pouvait utiliser ces races qui étaient en train de disparaître. On faisait appel également aux collectionneurs, et il y a une catégorie de personnes à laquelle M. Laurence n'a même pas osé faire allusion, c'était les éleveurs. C'est-à-dire, il était dit en 1974 que certes, les éleveurs d'un certain âge qui avaient continué d'entretenir ces races allaient continuer à le faire, mais ils n'auraient pas de suite. Vous voyez à quel niveau de résignation on se tenait. Alors fort heureusement, cette prévision s'est avérée totalement fausse. Il y a maintenant des éleveurs qui se sont lancés dans des systèmes alternatifs avec ces races, et ces races à faibles effectifs sont d'ailleurs les seuls sur la période récente à avoir vu leur nombre réaugmenter. Bon, la situation demeure quand même évidemment assez fragile. Alors, j'évoque ce souvenir parce que si le mot éco-pâturage n'a pas été prononcé à l'époque, il était déjà un petit peu dans l'idée de la Société d'ethnozootechnie pour le futur. Et M. Niveau nous a dit d'ailleurs que depuis 2 ans, ça bouge beaucoup. Bon, très bien. Voilà une deuxième évocation. La troisième, bon, les races locales à petits effectifs sont bien adaptées à des systèmes d'élevage alternatifs, notamment à l'éco-pâturage. Certes, ils le sont grâce à leur rusticité, certes, mais, alors je disais qu'il faut nuancer, la rusticité est un concept extrêmement difficile à aborder en termes scientifiques, et je peux vous dire que depuis 30 ou 40 ans, vous ne trouverez pas beaucoup de publications qui lui ont été consacrées. Il y a eu quelque chose écrit par Jean-Claude Flamand, là, qui a disparu, à des journées de recherche Ovide et Caprine, il y a longtemps, où il posait déjà un peu le problème, puis il y a eu un long silence. Et il s'est tenu récemment, il y a quelques années, une journée de l'Association française de zootechnie sur le thème, et qui a fait l'objet de la publication d'un numéro spécial de la revue Production animale de l'INRA. Je vous donne le titre. Le titre, c'était « Robustesse, rusticité, flexibilité, plasticité, résilience, les nouveaux critères de qualité des animaux et des systèmes d'élevage ». C'est-à-dire que le mot « rusticité » n'apparaît que comme un élément d'un ensemble. Alors, je me garderai bien de vous donner la définition de tous les autres termes, c'est d'ailleurs pas forcément très clair, mais il y a en tout cas des recherches en ce sens. Alors, quand on parlait couramment de race rustique il y a 30 ou 40 ans, c'était un petit peu péjoratif. Bon, aujourd'hui, ça ne l'est moins, mais il ne faut quand même pas utiliser le mot rusticité à toutes les sauces. Alors, la définition qu'on retient pour rusticité, ça concerne les races qui sont aptes à exploiter des milieux très difficiles. Alors, milieux très difficiles, ils peuvent être de diverses natures. Mais c'est-à-dire qu'il n'y a pas de milieu, sauf très ponctuellement, je ne pense pas, il n'y a pas de milieu très difficile dans l'ouest de la France, c'est-à-dire qu'en toute logique, on devrait en parler de race rustique pour les races de l'ouest. Cela dit, spontanément on le fait, puis je dirais moi aussi, moi le premier, hein, il y a des habitudes qui sont ancrées. Mathieu Pires disait tout à l'heure que le mouton d'Avranchin est rustique. Ben non, il n'est sûrement pas rustique, c'est un... Le mouton la race d'Avranchin est une grande race qui a été très performante, qui pourrait être exploitée dans des systèmes très intensifs, si des éleveurs le voulaient. Je ne sais pas ce qu'il faudrait dire, il faudrait peut-être dire qu'il est plastique ou flexible, mais pas rustique. Mais surtout, Mathieu, continuer à parler de rusticité, c'est pas grave. Moi, je nuance simplement. Alors, j'ajouterais également que l'éco-pâturage, on peut également le faire avec d'autres races que les races dites rustiques, qui sont, et surtout les races locales à faibles effectifs. Vous savez, des grandes races comme la Limousine peuvent parfaitement, chez les bovins, peuvent parfaitement s'accommoder de l'éco-pâturage, puis l'Avranchin en est également un bel exemple. Sur le thème de la rusticité, je voudrais mettre en garde contre un réflexe qu'ont souvent des éleveurs assez jeunes, qui se lancent dans l'exploitation des races dites rustiques. Dans leur esprit, les races rustiques doivent être capables de se débrouiller par elles-mêmes dans des conditions difficiles et ne pas avoir besoin de soins. Alors il faut faire très attention, parce que si on ne prend pas en compte l'idée qu'il faut quand même un minimum d'intervention au plan sanitaire, il peut y avoir des catastrophes, et je pense notamment au parasitisme. Pour se dispenser de traitements parasitaires, il faut vraiment avoir des chargements à l'hectare extrêmement faibles qui ne se rencontrent pas, ou en tout cas pas souvent. Donc attention, rusticité ne veut pas dire aptitude à se passer totalement de l'intervention de l'homme. On a eu des exemples avec le mouton des Landes de Bretagne, là, dont je suis l'un des redécouvreurs, à la suite de M. Paulabé, là, où il y a eu quand même des déconvenues à cause de cette idée. Bon, voilà, sur le terme de la rusticité, que vous dire d'autre pour en terminer? Alors, il faut évidemment d'autres arguments que la rusticité et le contexte de l'éco-pâturage pour continuer d'entretenir les races à faibles effectifs. Alors, ces arguments, M. Thibault y a fait allusion. Moi, j'attache une grande importance à leur côté patrimonial. Le patrimoine revêtant de multiples aspects, oui. Les vaches font partie du paysage, oui. On peut rêver de ne voir que des Nantais en Brière, de ne voir que des Villars de Lens sur le plateau du Vercors, mais on est complètement dans le rêve. Hein. Alors ça n'empêche pas de rêver, c'est même très important pour la santé. Là, c'est moi qui me vise, je rêve aussi, hein, c'est bien clair. Hein. Patrimoine, les races sont patrimoine en elles-mêmes, c'est le côté génétique. Il vaut mieux être prudent, on en aura peut-être besoin plus tard. Bon, je ne pense pas que la charolaise ou la Holstein, surtout, ait besoin un jour d'être retrempée par la Nantaise ou la Maréchine. Par contre, retrempée avec un Montbéliard, ça c'est déjà une réalité aux États-Unis. Hein. Là, c'est de la trempe entre grandes, pas entre grandes et toutes petites. Elles sont patrimoine ethnologique avec toutes les traditions qui sont liées à leur entretien. Elles sont patrimoine muséographique parce qu'il y a beaucoup, il y a peut-être 1200 ou 1300 musées agricoles en France. Là-dessus, il doit y en avoir 600 qui entretiennent des animaux dans le cadre de la ferme d'autrefois, qui est souvent une ferme de la fin du 19e siècle. Eh bien, par définition, quand il y a eu une race locale, on met dans la ferme des animaux de la race locale. Moi, j'ai vu dans un musée très intéressant dans le Nord Finistère, qui a d'ailleurs disparu depuis, des cochons vietnamiens pour illustrer l'élevage du porc dans la Bretagne d'autrefois. Bon, c'était quand même pour le moins discutable. Hein. Patrimoine muséographique, patrimoine paysager, c'est chaque région a son patrimoine vivant qui devrait différer quand on passe d'une région à l'autre, mais comme je le disais tout à l'heure, c'est du rêve. Patrimoine alimentaire avec la grande qualité de ce que l'on peut obtenir avec ces produits. Il y a beaucoup d'arguments pour la conservation de ces races locales. Il faut encore convaincre certains milieux en écologie, et certains milieux naturalistes également, du fait que les ressources génétiques animales, les races locales d'animaux domestiques font partie du patrimoine. Je vous rappelle qu'il y a eu quand même un scandale il n'y a pas longtemps, qui est l'abattage du troupeau de bovins de l'île d'Amsterdam, hein, du côté de, dans l'hémisphère sud, très loin, un troupeau qui s'était marronné ou féralisé, disons, depuis 150 ans, qui était un témoin absolument extraordinaire de ce que pouvaient être les animaux de l'époque. Ben, pour préserver je ne sais plus quelle espèce d'oiseau, le troupeau a été décimé, sans qu'on en entende parler, on a été informé après coup. Et actuellement, on est en train d'abattre un troupeau de moutons bisets qui est aux îles Kerguelen. Bon, pourquoi ? Alors, fort heureusement, on a eu un contre-exemple intéressant en Bretagne après la redécouverte du mouton des Landes de Bretagne. Il a été redécouvert en Brière. La première structure où il a été réimplanté après a été la réserve ornithologique du Cap Sizun. Et quand, alors, à l'époque, ils avaient besoin de mettre des moutons pour l'entretien donc, de la lande et la nidification de je ne sais plus quelle espèce d'oiseau. À l'époque, ils s'apprêtaient à mettre du mouton Swaledale. Alors, ça aurait été particulièrement original, évidemment, ça aurait peut-être intéressé les visiteurs. On a réussi à convaincre les responsables de mettre le mouton des Landes. Dès qu'il y a eu des moutons là-bas, ils ont fait appel à des éleveurs âgés qui, voyant les animaux, ont confirmé qu'effectivement, c'était les moutons qu'ils avaient connus autrefois. Et c'est comme ça que le mouton des Landes de Bretagne a pu repartir et qu'il se porte plutôt très bien aujourd'hui. Donc là, c'est le contre-exemple. Effectivement, il a pu y avoir une entente entre les milieux naturalistes et les milieux de défense des races locales. Voilà, donc le côté patrimonial est extrêmement important. Le prix de la Fondation du patrimoine concrétise que ça évolue. Il y a également maintenant la présentation d'animaux naturalisés dans des musées d'histoire naturelle, ce qui est quand même assez nouveau. Il y a une vache nantaise au muséum de Nantes. Bon, tout ça, ça prouve que les idées évoluent. Et tout doit converger, par écopâturage ou par d'autres arguments, vers la sauvegarde et le développement de ces races locales à faibles effectifs, qui sont des éléments très importants de notre histoire, mais qui sont également de pleine actualité aujourd'hui, puisque les éleveurs démontrent qu'il est tout à fait possible d'en vivre. Merci.
Bernard Denis, effectivement, vous regardez la montre, on a pris du retard. Tout de même, une question, vous nuancez un petit peu. Ici, par exemple, à Nantes, vous avez dû suivre de très près la vache nantaise. Il y avait très peu d'effectifs en 90, une cinquantaine, il en restait. Aujourd'hui, on dit 1000, peut-être, oui. Vaches nantaises. Oui. Sans l'écopâturage, est-ce qu'on aurait eu de tels résultats?
L'écopâturage, tout dépend de la définition exacte qu'on donne à l'écopâturage. Ces races se développent dans des systèmes à très faible coût d'intrants. Il ne faut pas qu'il y ait d'argent dépensé dans l'exploitation. Et à ce moment-là, la durée pendant laquelle on a besoin de garder les animaux avant de les commercialiser devient secondaire. Et puis en plus de ça, il faut greffer là-dessus des pratiques qui ajoutent des plus-values, à savoir fonctionnement très fréquemment en agriculture biologique, c'est pas systématique, mais c'est fréquent, et puis également, bien sûr, la fameuse vente directe à la ferme. Donc c'est tout un ensemble. Alors l'écopâturage, moi je sais peut-être pas exactement où commence et où finit l'écopâturage, ça c'est possible, c'est pour ça que je suis peut-être un peu gêné pour répondre à votre question, Mais en tout cas, c'est une démarche globale de la part d'éleveurs très motivés qui font également un choix de vie. Hein, c'est très important. Tout ne doit pas se mettre en calcul économique.